RMC.
Nous sommes de modestes provinciaux qui seraient très satisfaits d'être champions d'automne.
C'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie.
On s'est tapé dans la main en visio dans la nuit.
After Lyon,
Nicolas Jamin.
Salut à tous, bienvenue dans le podcast After Lyon avec à mes côtés cette semaine Roland Courbis. Salut coach.
Salut les amis et salut à tous.
Et notre correspondant à Lyon qui pour une fois n'est pas entre Rhône et Saône mais en bord de Seine, Edouard G est avec nous à Paris. Bonjour, bonsoir Edouard.
Salut Nico, salut coach.
Salut Doudou.
Salut à tous.
Impressionnant en vrai Edouard.
Hein. Ah oui.
Quel charisme. Quel charisme. On va lancer, l'OL va lancer surtout une quinzaine très importante qui pourrait conditionner la suite de sa saison. Trois matchs à domicile et donc avec l'appui d'un public qui n'aura jamais lâché un club en perdition. Pourquoi ses supporters à Lyon sont-ils restés si fidèles? Quel rôle vont-ils jouer dans cette série et fin de saison? Vous écoutez le podcast After OL, c'est parti. Vendredi soir, Lyon reçoit Rennes. Dimanche 4 février, Lyon reçoit Marseille. Mercredi 7 février, Lyon reçoit Lille en 8e de finale de Coupe de France. L'OL qui, je le rappelle, est toujours barragiste, hein, 16e de Ligue 1 après sa rechute 3-1 au Havre. Coach, faut-il considérer cette série à venir pour Lyon comme une magnifique occasion d'affirmer un début de renouveau, un début d'embellie, ou est-elle trop dangereuse et crispante pour cette OL qui est encore un peu malade?
Non, je pense qu'on peut parler d'embellie, même si après il restera beaucoup de matchs. Mais c'est vrai que dans ces trois matchs que tu viens de nous donner, il y a le match contre Lille. C'est quand même un match à domicile, le tirage au sort qui t'a donné pour faire des efforts, mais aussi pour réaliser que tu peux te retrouver en quart de finale. Et quand on regarde les huitièmes de finale, en quart de finale, tu peux encore tomber sur un club à ta portée. Donc c'est pour ça que le championnat en premier, mais cette coupe et la possibilité de récompenser les supporters et d'aller, pourquoi pas, au bout, ben ça c'est sûr qu'on ne peut pas l'enlever de la réflexion de Lyon.
Edouard, est-ce que tu sens, avec les résultats, depuis l'arrivée de Pierre Sage, une forme de sérénité revenue à Lyon?
Bon, en tout cas, il y a les fondations qui ressemblent plus à un club de Ligue 1 désormais. Souvent, on avait vu des matchs, on en avait parlé ici, où il n'y avait aucun représentant du club. Du coup, ben, Tony Parker avait rien à faire un dimanche après-midi. John Textor l'avait appelé en disant ben, « Tiens, viens t'asseoir dans mon fauteuil », alors qu'il n'a aucun statut à l'OL. On avait vu aussi sur un match à Brest où c'était Mathieu Louis-Jean, qui est le directeur de recrutement. Alors certes, il est dirigeant, mais il était que directeur de recrutement, qui là où jusqu'à présent on avait toujours un Jean-Michel Aulas en présentiel, on fait voilà. Et là, eh bien depuis un alignement de planète début décembre face à Toulouse, on avait quoi? On avait un président en présentiel, John Textor. On avait un nouveau directeur général, Laurent Prudhomme, à sa droite. On avait David Friot, le directeur sportif, pas très loin, et on avait aussi Mathieu Louis-Jean qui était là. Et, cerise sur le gâteau...
Un très bel organigramme, enfin, quoi, une hiérarchie.
Et, cerise sur le gâteau, Jean-Michel Aulas qui était juste derrière, parce que c'était le jour des grandes retrouvailles et des grandes accolades. On a su après pourquoi, parce que quelques deals financiers ont été réglés. Mais la grande famille s'est rassemblée. Et comme par hasard, ce jour-là, sur le terrain, il y a eu 3-0. Alors, c'est peut-être un raccourci de journaliste, mais au moins on sent que voilà les joueurs, le staff, l'entraîneur en chef, ben il a quelqu'un. On se souvient, j'ai toujours raconté cette anecdote ici. Coach, tu me diras ce que t'en penses en tant que justement entraîneur. Quand Laurent Blanc est démis de ses fonctions et que Jeff Vuillet va prendre la succession en intérim, ben il y a personne de la direction qui vient dire ben voilà, on a dit à Laurent Blanc c'est fini, maintenant c'est lui, c'est eux qui font l'intérim. C'est Laurent Blanc lui-même qui, en vidant son casier, est passé dans le vestiaire et a justifié le fait que voilà, ben c'est un nouveau staff avec Jérémy Bréchet, Sonny Anderson, etc. C'est plus moi. Donc ça, c'est le genre de choses qui avait un petit peu ému un certain nombre de joueurs habitués à avoir un cadre. Là maintenant, il y a un cadre et les choses sont bien faites. Il y a un président qui préside, un chef, le directeur général Laurent Prudhomme, qui en plus, sous sa coupe, a tout l'aspect administratif bien évidemment, mais aussi a David Friot. Donc voilà, c'est une pyramide qui est bien en place, avec une cellule de recrutement bien orchestrée, etc. Donc maintenant, voilà, tout est mis en place.
Et coïncidence, ça va un peu mieux.
Ça va un peu mieux. Il y a eu des recrues également.
Mais bon, on ne va pas enlever la responsabilité de Sage aussi, qui, depuis qu'il est arrivé, ben, on trouve quand même une équipe de Lyon qui ressemble la plupart du temps à quelque chose.
Avec des recrues notamment, une qui a déjà été intégrée, la dernière, Malik Fofana, hein, qu'on a vu débuter et marquer à Bergerac. Guy Torban, lui, s'entraîne avec le groupe depuis le début de semaine et postule à une place dans le groupe pour Rennes ce vendredi. Avant d'évoquer les supporters lyonnais, je précise également qu'il y a une charnière à constituer hein, pour la réception du Stade Rennais, hein, coach. Je rappelle qu'O'Brien et Chaïta Tsar ont pris un rouge tous les deux au Havre. C'est une épine dans le pied de Pierre Sage. Hein. Les solutions, ça peut être quoi, Edouard?
Alors, ça peut pas être Mamadou Sarr, qui est un jeune qui a été prêté à Molenbeek hein, dans les récents allées et venues. On sait aussi que Diego Moreira, lui, a cassé son contrat. Alors, bien évidemment, lui, c'est pas un défenseur. Donc, ça veut dire qu'un Dejan Lovren, on peut voir aussi Clinton Mata, Adrielson.
Mata et Comini sur la droite.
Voilà. Donc, si on continue sur une défense à 3, il y a quand même quelques solutions en magasin, avec notamment Adrielson.
Diomandé est toujours là.
Diomandé est toujours là, mais pour l'instant, il n'est pas dans les petits papiers, on va dire, de Pierre Sage.
Bon, il y a eu également retour de sérénité en tribune. Hein, tu l'as constaté, mon cher Edouard, au Groupama, depuis l'arrivée de Pierre Sage. Ils sont nombreux également à faire les déplacements, mais ça, c'est pas nouveau, c'est une tradition, lors des week-ends de Ligue 1. Le public qui n'a jamais lâché, on en parle à présent, avec notamment Grégory et Cuiron, qui est avec nous, hein, habitué d'RMC, que vous connaissez bien, si vous aimez la gastronomie française. Salut Greg.
Salut.
Supporter.
Et si vous aimez l'Olympique Lyonnais aussi.
L'Olympique Lyonnais, j'allais y venir, bien sûr. Hein. Tu ne manques aucun match au Groupama, c'est bien ça. Voilà. Est-ce que tu as sentiment, toi aussi, que le calme est revenu et que l'espoir avec?
Alors, l'espoir est revenu, il n'était plus là. Le calme, je trouve que ça fait quand même un moment qu'il y ait le calme. Et je suis le premier à dire, quand les supporters m'enquiquinent un peu parce que je trouve qu'ils râlent trop, là, en l'occurrence, ils sont d'un calme olympien, si vous me permettez l'expression. Et je trouve qu'on est vraiment derrière l'équipe. Ils se sont rendus compte, en fait, que l'équipe avait tellement la tête dans le seau que ça servait à rien de taper dessus. Je pense que c'est ça, la prise de conscience des supporters.
L'affluence le montre chez Edouard, hein, même au plus profond de la crise. C'est la troisième affluence de Ligue 1.
72% de
Marseille premier, Paris deuxième.
41 746. Je voulais pas arrondir à 42 000 parce que Greg allait avoir les oreilles.
Ah
qui
non, ça j'aurais pas aimé.
Mais c'est vrai que.
T'es surpris toi, Edouard, ou pas? T'as été surpris de voir au pire de la période sombre de l'OL ces derniers mois, de toujours voir un ciment tribune de supporters qui était là?
Oui, parce que on en a souvent parlé ici, les supporters lyonnais sont quand même assez exigeants et on va pas
ne pas dire plus.
Pardon.
On peut parler de Bruno Genesio,
voilà, et surtout voilà. Sur des périodes où mine de rien le club, alors vous allez me dire oui, il y avait les moyens pour etc., mais quand même c'est un club qui était régulièrement sur le podium et j'ai eu beaucoup d'après-matchs qui étaient un petit peu délicats, même quand l'année dernière l'OL était 7e, 8e, il y a eu beaucoup d'après-matchs qui étaient délicats, souvenez-vous après certains matchs face à Clermont ou d'autres. Et puis là, aucun débordement. Alors, il y a un énorme travail de l'OL pour discuter avec ses supporters, pour expliquer. On sait qu'à un moment donné aussi, John Textor parlait beaucoup directement pour expliquer sa méthode en disant ça va venir, voyez, on va faire comme ci, comme ça. Et puis, je crois que c'est Greg qui le dit. Moi, j'ai senti aussi, Greg, je crois que c'est même toi qui me le disais à un moment donné, ils avaient peut-être les supporters, et peut-être toi le premier, la frousse, la trouille c'est que ça. Ce club descende, et donc on va... nous aussi, on a la trouille, quelque part, ça nous empêche de faire des choses.
Oui, puis il ne faut pas se tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire que si la situation est difficile, se faire taper sur la tête, je ne suis pas sûr que ça arrange véritablement les choses.
Coach, c'est intéressant ce qu'évoque Edouard et ce qu'évoque Greg, hein, la frousse, la peur de voir leur club descendre en Ligue 2. Pour toi, c'est... presque un moteur, et c'est aussi la chance de l'OL, de ce monument du foot français, de pouvoir avoir ces supporters qui vivent avec cette crainte quasiment hebdomadaire, quotidienne, depuis plusieurs mois.
Oui, mais bon, on se met à la place des supporters. Tu t'imagines, tu es supporter de Lyon. Hein, donc, entre Lyon. Les installations, la grandeur de cette ville... Tu t'imagines pas descendre en deuxième division et là c'est pas seulement que tu t'imaginais pas, c'est que tu avais peur d'y être déjà. Et là avec ces 9 points récupérés en 3 matchs, mais ça te redonne l'espoir Et là, tu n'as pas envie de critiquer pour le moment. Tu laisses les critiques de côté, pourvu qu'on se sauve. On ne sait jamais, il y a encore cette espérance en Coupe de France. Et après, on aura l'occasion de retourner à notre sévérité, je dirais pas habituelle, mais un peu quand même.
Il y a des leviers,
beaucoup d'exigences.
Il y a des leviers de communication, toi qui as été coach, qui a connu des très bonnes périodes, des moins bonnes également, pour arriver à fédérer les supporters malgré la tempête.
Non, je pense que des leviers, c'est difficile d'en trouver. Par contre, la personne qui s'adresse aux supporters, ben, suivant qui c'est, même avec les mêmes propos, il n'y aura pas le même comportement. Un garçon comme Jean-Michel Aulas qui s'adresse à ses supporters, ben, c'est pas pareil qu'un autre président.
Mais on l'a vu quand même sur la fin, il y a trois fois où il a été aussi, lui, un petit peu bougé par les supporters. Donc, c'était quand même passé un cap. Mais moi, quand je vois la moyenne actuelle, là, c'est presque 42 000 personnes, en sachant que le PSG, alors le stade n'était pas plein, mais parce que c'était le dimanche avant la rentrée. Donc, on peut expliquer peut-être que 7-8 000 personnes qui ne sont pas venues, donc ça aurait pu encore monter ça. Mais qui dit que Lyon n'est pas une ville de foot, finalement ?
C'est vrai.
Est-ce que pour avoir son équipe, moi j'ai regardé mes statistiques, il y avait près de 43 000 personnes à 13h un dimanche au L Clermont.
C'est très mauvais souvenir d'ailleurs.
Oui, mais c'est un...
Mais ils sont revenus 15 jours plus tard.
Voilà, ils sont revenus.
Là, tu te disais, bon, si ça avait été à huis clos, peut-être.
Tiens, non, mais c'est incroyable qu'en fait, moi c'est une vraie surprise.
Les joueurs aussi de cette époque-là, on peut penser qu'ils pouvaient être influencés par le public. Et aussi le mécontentement du public, un mécontentement tout à fait logique.
Ce qui peut nous laisser imaginer un groupe à un stadium plein, si Lyon joue un jour le podium peut-être, ça arrivera assez vite si c'est le cas. Thierry Boisrivant est avec nous, autre supporter de Lyon. Salut Thierry.
Bonjour messieurs.
Vous voulez vous réunir, les supporters, Greg est là, Thierry toi aussi, tu es au Groupama chaque match de l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce qui t'a donné envie toi de ne pas lâcher ton équipe ces derniers mois?
L'envie qui a donné de pas lâcher notre équipe, c'est tout simplement je m'occupe d'un groupe de supporters en fait tous les groupes de supporters on s'est vu, on s'est dit les choses telles qu'elles sont, attention, on est en train de filer en Ligue 2, il y a de fortes chances qu'on file en Ligue 2, donc on ne veut pas ça. Donc tout mettre sans dessus dessous, ça sert à rien, il faut pousser l'équipe et les aider à aller mieux, parce qu'on sentait que individuellement il y avait beaucoup de force dans cette équipe, mais collectivement ils n'y arrivaient pas. Donc on s'est dit, il faut absolument que nous on soit vraiment le 12e homme et que on les pousse à aller retrouver le football qu'ils savent faire et qu'ils savent jouer. Et voilà. Et aussi, on a remis un petit peu les pendules à l'heure avec notre cher actionnaire, monsieur Textor, quand on avait fait quelques banderoles en mettant objectif maintien, parce que quand il disait qu'on ne jouait pas le maintien, je pense que il avait pas bien ajusté ses lunettes, donc on lui a rappelé un petit peu les choses.
Est-ce qu'il y a eu des risques de défection dans ton groupe de supporters, de certains supporters qui disent, non, moi j'y vais plus, je lâche l'affaire, c'est pas possible, personne ne nous respecte dans ce club, des joueurs ou dirigeants?
Non, il y a eu de la déception, on va dire, mais il n'y a pas eu de défection, il n'y a pas eu de personnes qui ont dit non, mais ils font chier, je veux plus venir, voilà. Enfin, je suis un peu vulgaire là, mais voilà. Non, il n'y a pas eu ça. Il y a eu vraiment plus. Faut absolument qu'on pousse et qu'on tienne et que on reste en Ligue 1 parce que Lyon ne doit pas être en Ligue 2. Enfin, pour nous, c'est presque quelque chose qu'on n'imagine même pas. On voyait le truc s'approcher et on s'est dit oulala, il faut absolument qu'on aille les aider, les soutenir. Enfin, qu'on continue à notre soutien et non pas qu'on siffle, qu'on fasse des banderoles ou que quoi que ce soit d'autre, quoi.
Mais il y a déjà Bordeaux et Saint-Étienne. Nantes qui va pas très bien, il manque plus qu'il y ait Lyon. Donc
mais t'as raison, le traumatisme des supporters lyonnais l'ont vécu à part procuration à travers Lyon, Saint-Etienne notamment et d'autres clubs encore. Greg, toi c'est pareil, tu t'es jamais posé la question un jour de match de l'OL au Groupama de ne pas y aller?
Non, mais en revanche, c'est frustration sur frustration. Enfin là maintenant ça va beaucoup mieux, mais pendant un moment on savait qu'on allait voir un match, on allait jouer comme des purges et perdre. Donc faut vraiment avoir le club... ancré au plus profond de son cœur pour continuer à regarder ça. Moi, pendant trois mois, j'ai plus l'équipe, quoi. Les résumés de matchs, les trucs comme ça, j'en voulais pas, quoi. C'était dur. C'était dur. Donc maintenant, c'est vrai que l'avantage, c'est quand on commence un match, au moins, on a l'espoir de pouvoir le gagner.
C'est ça l'espoir, le nouvel espoir apporté par Pierre Sage. C'est à lui que vous attribuez l'embellie lyonnaise.
Alors, entre autres, parce que je pense aussi que là, pour le coup, au bout du troisième entraîneur, certains diraient quatre, parce qu'il y a eu Jeff Vullier qui a pris les rênes pendant pendant un match, mais je pense que les joueurs étaient aussi dos au mur. Donc tout le monde s'est bougé. Je pense qu'il y avait quand même un traumatisme au sein du vestiaire. Et ça, Pierre Sage a réussi à laver un peu les têtes. Et en même temps, c'est vrai que je trouve que tactiquement, c'est déjà voir des joueurs qui jouent à leur poste, voir une équipe dont les joueurs ne changent pas à tous les matchs, bah, un peu de stabilité, quoi, ça aide. Et puis, comme le disait Edouard, quand on a un directeur sportif qui est directeur sportif, un DG qui est DG, un recruteur au recrutement et un président qui préside, on commence à être pas mal.
Je vous pose une question, Thierry, je commence avec toi. Est-ce que, pour toi, la relégation n'est plus d'actualité ?
Ah si, elle est toujours d'actualité, parce que, j'allais dire, moi, juste avant la trêve contenante, le match, je sors, je suis comme un dingue parce qu'on est 15e, et j'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais comme un dingue parce qu'on est 15e, et qu'on est plus relégable. Mais là, le match d'après, on le perd contre le Havre, et on est 16e, et on est barragiste. Donc non, c'est toujours d'actualité, parce qu'il faut qu'on se sauve, et il faut qu'on sorte de cette zone rouge, là elle est un peu orange, mais il faut qu'on sorte de cette zone et qu'on soit là, nous présents les supporters, pour aider notre équipe à sortir de là. Pierre Sage fait du bon boulot, ça y a pas de doute, mais il faut que nous on soit là pour être vraiment le 12e homme, et que on soit pas, qu'il n'y ait pas que 11 joueurs sur le terrain, mais 12, et qu'on soit 12 présents dans le stade pour aller plus loin et sortir de cette zone.
Edouard, au club, c'est le même sentiment, on reste très prudent toujours ?
Ah oui, rien n'est... Alors, on est confiant à long terme sur un projet à horizon 2030 au niveau structure, parce que Dion Textor ou Laurent Prudhomme, là, qui travaille là-dessus, travaille justement sur du long terme, parce qu'il y a quand même un outil qui est formidable, hein, propriété privée du club, etc., donc qui peut ramener des revenus réguliers. Donc, il y a cette donnée-là très structurante à long terme. Mais le long terme là passera quand même par un maintien cette année. Donc on est très très prudent, et puis on est prudent aussi par rapport au recrutement, parce que ben déjà il est pas fini à l'instant T, et puis ce sont des jeunes, il faut que la mayonnaise prenne, il faut voilà que le mélange avec on va dire les anciens, ceux qui ont mené quand même l'OL jusqu'à présent, c'est-à-dire peut-être certes dernier, mais qu'on fait ces trois victoires qui ont permis de sortir la tête de l'eau, et puis amener les nouveaux. Voilà, ça va être un subtil mélange à mettre en place là au mois de maintenant jusqu'au mois de mai, en espérant qu'il n'y ait pas le match de barrage, parce qu'on rappelle, hein, il y a Taylor Swift au Groupama Stadium, donc il ne peut pas y avoir de barrage au stade.
Coach Thierry G, et c'est normal, en priorité le championnat pour Lyon, bien sûr, hein, étant donné la situation de l'OL. Mais toi, tu estimes que Lyon doit aussi jouer cette coupe à fond ?
Ah bah oui.
Mais pourquoi ? Est-ce pas un risque ?
Il n'y a pas 50... comment dirais-je ?
Solutions ?
Non.
Possibilités ? Voies pour aller en Europe ?
Non, pas 50 coups. Il n'y a plus la Coupe de la Ligue.
Oui, mais...
Il n'y a plus la Coupe d'Europe. Donc, il te reste pour gérer le vestiaire, le championnat, qui est un petit peu l'inquiétude, et après, le bonbon qui te permet quand même d'égayer un petit peu le vestiaire. Donc je dirais, il n'y a pas 50 compétitions, c'est le mot que je n'arrive pas à trouver. Donc là, non, c'est tout à fait logique, mais le tirage contre Lille, c'est pas un tirage simple.
Greg, c'est un sujet de la Coupe de France pour toi ou pas du tout cette saison ?
Ah mais carrément, c'est le maintien plus la Coupe de France. Ça va, on est passé dans une Ligue 1 à 18 clubs, plus des matchs de coupe de France, on a quand même l'effectif pour pouvoir mener les deux de front. Et en effet, alors on peut jamais préjuger par avance, mais si on finit 14e, 12e, 11e, allez soyons fous, 11e, et qu'on gagne la Coupe de France, finalement on aura sauvé la saison, puisqu'on a la qualification européenne au bout.
Thierry, t'es du même avis ?
Oui, je suis exactement du même avis. Comme dirait Roland, il n'y a pas 50 compétitions à jouer, on en a deux. Je pense que cet effectif est largement capable de jouer et le maintien en Ligue 1 et la Coupe de France de front. Donc voilà, on verra aussi avec le mercato qui arrive. On sait aussi que la restructuration au club, elle est en train de se faire tout doucement. On sent que ça va de mieux en mieux, qu'il y a des personnes en place, comme vous en parliez tout à l'heure. Voilà, les personnes en place et qui commencent à faire visiblement du bon boulot. Voilà, continuons comme ça et jouons les deux compétitions de front. Ouais, on peut pas se dire on laisse tomber la Coupe de France. Non, ça c'est juste impossible à entendre.
On va suivre ça. Et ces trois matchs d'abord, ces deux matchs de Ligue 1, Lyon-Rennes, Lyon-Marseille, Lyon-Lille en 8e de Coupe de France. Merci Greg. Merci Thierry d'être venu dans le podcast After Lyon.
Merci beaucoup.
Merci.
Et à très vite. Merci Doudou. On te laisse retourner entre René et Saône, bien sûr.
coach, avec l'espoir d'un quart de finale Lyon-Saint-Priest, ça peut être pas mal.
Ça peut être un bel objectif.
Saint-Priest, tiens, qui jouera son match de Coupe de France. Malheureusement, il n'y a pas de stade pour ce type de dans la région, dans l'agglomération. Et puis, vu que Lyon-Lille a lieu, donc Groupama peut pas être prêté à Saint-Priest. Du coup, ça se jouera au stade Pierre Rajon.
D'accord.
Le rugby, voilà. À Bourgoin.
Ouais, voilà. J'espère qu'on va changer les buts.
Je pensais à Saint-Etienne.
C'est là-dessus, sur ce mot d'esprit de coach, qu'on se quitte et qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast After Lyon. Bonne fin de semaine à tous.
RMC After Lyon.